Bonjour.
Bonjour.
Addison Diro, je suis doctorante et enseignante aussi en médiation numérique sur ces questions avec Chris Renaud. Déjà, merci pour votre présentation qui était absolument passionnante, que ce soit à la frise ou à la fin, tout ce que vous avez présenté sur la réflexivité autour de votre métier. Et je dois dire que je suis assez admirative de tous les dispositifs numériques qui sont développés ici à la Cité des Sciences, que j'utilise beaucoup en exemple dans mes cours, parce que je trouve que c'est toujours super pertinent, ça marche bien, c'est un titre de enfin, bravo. Moi, je travaille en recherche sur le secteur des entreprises, des startups, des agences qui développent des outils, des projets numériques pour musées des patrimoines, etc. Qui ont eu, j'ai l'impression, en tout cas, enfin moi, ce que j'étudie surtout sur leur discours, des approches assez différentes de ce que vous avez présenté. Et donc, de ce que j'ai compris, à Universcience, vous travaillez en autosuffisance, hein, non? Donc, ma question était, est-ce que vous faites appel à des prestataires, des startups, etc.? Et quel est votre regard sur le développement de ce secteur d'activité où, voilà, il y a de plus en plus de boîtes, d'entreprises qui se développent et font des projets numériques, des outils, des dispositifs?
Alors, on a depuis toujours utilisé des prestataires extérieurs. Donc, effectivement, ce qui va varier, c'est dans la phase de conception, où est-ce qu'on s'arrête? C'est-à-dire qu'il va y avoir certains dispositifs sur lesquels on va faire la conception-réalisation. Et il y a d'autres dispositifs sur lesquels on va pousser la conception en interne, parce qu'on imagine que le paradigme d'interaction, il est très, très proche d'une donnée scientifique et que les commissaires avec lesquels on travaille, on a du mal à l'obtenir. Et donc, si on le délègue, on ne serait pas en capacité de le déléguer. On a besoin de venir faire du travail cousu au fil d'or parce que c'est une relation un peu compliquée avec ces personnes qu'on le savoir. Donc, il y a tout un travail de compréhension et on ne peut pas déléguer la conception entièrement parce que malheureusement, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas entièrement. Donc, on va faire l'inverse. On va consommer au maximum et à ce moment-là, on va aller faire des marchés de réalisation pure. Pour finaliser une fois qu'on a développé une preuve de concept. C'est pour ça qu'on a effectivement des ingénieurs en interne qui nous permettent de développer des prototypes, qui nous permettent de tester que les solutions d'ingénierie qu'on imagine, elles sont au moins possibles, mais qu'on s'en va pas. Et donc j'ai envie de dire que le nombre de prestataires, c'est pas tant qu'il a beaucoup changé, c'est que leur modèle économique et le modèle d'affaires ont changé. Parce que finalement, des créatifs, il y en avait toujours. C'était des gens qui venaient de l'audiovisuel, qui se réinventaient un métier au moment où les CD-ROM, le numérique, ils sont arrivés. Aujourd'hui, c'est des gens qui rentrent dans ça, soit par une appétence commerciale, soit parce qu'ils ont quand même suivi un cursus, ils ont quand même une formation. On voit bien, en tout cas, pour certaines personnes qui sont là, que même la nature de formation, elle a extrêmement changé. Moi, j'ai fait une formation de conception numérique où on faisait beaucoup de choses extrêmement physiques. On filmait, on découpait, on faisait des choses. Maintenant, quand on va dans les formations, je ne sais pas comment vous arrivez à gérer la vôtre, mais on est vraiment sur de la théorie et ou sur de l'ergonomie, mais on est un peu moins dans la fabrication. Et finalement, le numérique, en ce qui me concerne, ça reste un matériau comme un autre qui se malaxe, qui se travaille. Hein. Et cette capacité à pouvoir le travailler, surtout le travail en conditions d'usage, c'est vraiment les choses qui sont les plus importantes. Du coup, j'en profite, je fais un petit aparté, parce qu'un espace comme celui-ci, le Carrefour numérique, c'est vraiment un espace qu'on a envie de dédier à toute une communauté de créatifs pour pouvoir venir tester leurs dispositifs en situation d'usage avec des publics bienveillants que sont ceux de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et donc, voilà, là-dessus, j'ai fini. Je clôt la parenthèse. Mais donc, du coup, ce qui nous manque, aujourd'hui, c'est d'être sur un dialogue avec ces nouvelles entreprises qui ont peut-être des métiers qui ne sont pas entièrement ceux de la médiation et comment les familiariser avec la médiation. Et le travail qu'on fait de poser du vocabulaire, il se traduit aussi dans. On est en train de revoir la façon dont on écrit nos CCTP. On est enfin de pouvoir être mis en capacité de problématiser nos projets pour qu'on soit dans une logique et un dialogue qui fasse que voilà ben, le marché change mais finalement le dialogue il doit rester au même endroit.
Pardon, juste. Mais ça, vous le savez tous, après, il y a la contrainte de la commande publique. Et donc, c'est un préalable qui interdit parfois de la souplesse.
et des startups ou des petites entreprises ou des personnes indépendantes, c'est bientôt piqué pour plein de raisons. Et donc, par exemple, en interactif, on a un accord cadre parce que, en fait, c'est simplement pour aller plus vite. En réalité, c'est parce que c'est si on commande au coup par coup sans accord cadre, les délais de procédure sont plus longs que dans le cadre d'un accord cadre. Donc ça ferme un certain nombre d'entreprises. Donc là, on est assez toujours un peu pas dans les clous à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Si, si. Non, non, mais parce que là, on a un accord cadre avec 18 attributaires, ce qui est assez pas classique. Normalement, il y en a 5-6 qui, pendant 4 ans, on a régulièrement tourné pour travailler avec nous. Là, on a voulu quand même en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup pour avoir toutes les tailles, faire marcher comme à nos temps plus parents m'y tient tous, à faire marcher l'écosystème, hein, et faire marcher toutes les tailles d'entreprise, les mastodontes qui sont là depuis plein d'années, des personnes qui sont plutôt artisanales et qui aussi ont beaucoup d'expérience depuis plein d'années. Ça.
Je crois qu'on avait une autre question, il y en avait deux autres après. Faites du plus court possible, s'il vous plaît. Merci.
Bonjour, Guillaume Pellerin, je suis co-directeur à AERIS, c'est l'Institut de recherche et migration du Centre Pompidou. Merci beaucoup pour cette présentation très étayée, cette frise qui donne beaucoup aussi d'imagination sur ce qu'on peut faire sur la suite. Alors, nous, on travaille beaucoup sur la recherche contributive et les sciences participatives, c'est un de nos axes particuliers. Donc, évidemment, j'ai tiqué sur votre dernière liste du Père Noël. Et donc, à ce sujet, je voulais savoir comment vous pensez cette approche, comment vous la mettez en œuvre en quelque sorte. In situ, donc ici, peut-être dehors aussi, je ne sais pas si vous avez des relations avec des territoires ou d'autres instituts qui ont ce type d'approche. L'enjeu, évidemment, pour nous, c'est de concevoir des protocoles ou des scénarios, donc tout ce qu'on appelle, pour envisager en fait une sorte de bijection entre ce qu'on apporte en connaissance et ce que les citoyens et citoyennes, les gens, apportent en connaissance de leur côté, dans l'autre sens. Pour alimenter en fait le procédé ou l'objet qu'on met en œuvre. Donc ici, évidemment, vous êtes très porté sur l'interaction, mais ma question porte vraiment sur la manière dont vous recevez, vous mesurez en quelque sorte, vous appréhendez la contribution de l'IA.
Ok, yes, ça c'est assez sec. C'est bien. Bah, dans le cas de l'aspect juste, pas vous pas. Mais j'en ai en concret.
Je vais peut-être pas faire exactement la réponse que Stéphanie, mais c'est pas grave, comme ça, on sera à deux. Faut savoir que je reviens un peu sur cette espèce. Cette espèce, il fait de l'accompagnement à l'innovation ouverte et participative depuis des années, où on est référencé des Zingdom. Et là, on est complètement décorrélé du numérique, mais on a quand même une pratique d'ici de pouvoir se poser la question, savoir effectivement comment on arrive à amener des visiteurs à contribuer. On accueille aussi grâce à notre réseau et nos liens avec des chercheurs, des projets de sciences participatives, mais sur lesquels nous n'avons pas nous ne sommes pas partie prenante, on est uniquement en situation d'accueil, donc on sait qu'on a quand même des visiteurs qui sont comme ça intéressés. Et c'est vrai que, donc du coup, ce que je disais, c'est que parmi ces quatre thèmes, l'objectif, c'est de pouvoir trouver dans la programmation des expositions en cours et à venir, quelles sont les expositions qui vont pouvoir venir nous permettre de tisser ce fil et de pouvoir se dire, ok, en fait, là, on a quand même une perspective de 3-4 expositions qui vont nous permettre de pouvoir venir adresser ces mêmes questions. Et par exemple, sur la question de la contribution, on est dans la refonte de notre espèce d'exposition dédiée à l'actualité scientifique, à la capacité à pouvoir comprendre son rapport aux médias, comprendre son rapport à l'information scientifique, être en capacité de aller au-delà des biais cognitifs, etc. Et donc du coup, c'est le début d'un travail. On commence avec cette première brique-là. Ensuite, on est bien évidemment en recherche de partenaires pour nous aider à avancer. Alors on le fait au fur et à mesure qu'on présente cette stratégie, de voir comment on pourra trouver des gens qui peuvent nous accompagner à la réflexion. Et... voilà, je sais pas si ça répond à la question.
Tu voulais dire un truc ou non, mais en fait, on n'a pas le temps. Mais c'était moi, j'avais une réponse super triviale. Un exemple de science participative pour l'exposition Chien et Chat, première occurrence, avant qu'elle revienne là en février. Et donc, c'était via une application, les visiteurs étaient invités à enregistrer un certain nombre de choses du comportement de leur petite de leur chien ou de leur chat. Et les chercheurs qui étaient en lien sur cette exposition récupéraient les données. Donc, c'était un exemple.
On a une autre, peut-être une dernière question pour Sio.
Rapide, parce que on commence peut-être à être affamé. Rapide, parce que un peu spécifique et intéressé. Je me demandais si vous aviez des expériences de valorisation, de médiation numérique dans des champs peut-être un peu plus arides et d'ici près de moins. Je veux parler par exemple du manuscrit, de l'épigraphie, de la codicologie. Est-ce que vous avez des exemples parce que là, vous montrez plutôt des matériaux, disons, plus médiatisables, des choses peut-être qui se prêtent peut-être plus facilement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de créativité derrière, etc. Mais pensez par exemple au Quai Branly, où on a de la statuaire, où on a du costume, des instruments de musique. Ouais, pour moi, je suis dans le champ de la diffusion et valorisation scientifique dans un domaine où il y a plus de manuscrits de l'Antiquité tardive jusqu'au Moyen-Âge, etc. Est-ce que vous avez des expériences, des choses à vous indiquer, à proposer dans ce champ-là?
Alors, moi, tout le travail qui est actuellement engagé autour de la tapisserie de Bayeux et du projet de création du nouveau musée, avec là, les enjeux numériques, donc côté recherche, c'est tout un système d'information, de données qui a été mis en place dans une perspective de recherche avec tout un volet sémantique, mais qui va se poursuivre jusqu'à la mise en œuvre du parcours de visite et du projet de médiation, où là, on a vraiment, voilà, à partir d'un objet qui est assez particulier, qui est celui de la tapisserie de Bayeux, tout un appareil scientifique d'analyse des thunes et aussi un support technique qui est mis en œuvre, mis en jeu, et qui va s'inscrire dans une présentation au public. La tapisserie va être présentée sur l'ensemble de sa longueur, en 70 mètres.
Quand
C'est 2027, je crois. C'est en plus un projet dans un temps record. Donc ça, voilà. Et après, sur les manuscrits, il y a beaucoup d'autres projets. Il y a eu on pourrait nourrir la frise sur ces sujets-là. Il y a sur les manuscrits de Léonard de Vinci, par exemple, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais il y a eu toute une exposition au Louvre sur cette question avec un dispositif numérique. Et c'est souvent lié aussi aux conditions de numérisation de ces supports. Voilà. Mais on pourra en parler cet après-midi dans les ateliers, peut-être, et vous avez peut-être aussi, vous, connaissance d'expérience qu'on pourrait rajouter à la place.
Moi, vas-y,
vous êtes-y. Bien, alors, on est désolé. Enfin, je me disais, d'une part, je crois qu'on a donné un exercice extrêmement périlleux à l'ensemble de nos interlocuteurs dans un temps record. On a senti, quoi, voilà. C'est une journée d'accélération, donc en fait, on accélère la remise. Alors, vous voulez décélérer, enfin, voilà, que... Merci quand même d'avoir prouvé le jeu, parce qu'en fait, de réouvrir les archives, c'était assez long. On est donc attendu pour le déjeuner qui va se passer en face. On va essayer de décaler un petit peu l'après-midi pour laisser quand même le temps de déjeuner. On se retrouvera donc à 14h45.
Oui. Pour la reprise ici, et l'exposition, c'est 13h45.
13h45 pour l'exposition. On se retrouve ici pour ceux qui veulent aller faire l'exposition. 14h45, on se retrouve pour... le lancement des ateliers qui commenceront par la présentation de cet ouvrage-ci qui s'appelle Des branches et donc de la démarche en fait collaborative qui a été mise en place pour la réalisation de cet ouvrage. Pour des personnes, justement, je vous l'annonce parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent peut-être pas rester cet après-midi. Et donc, du coup, les exemplaires, vous allez, chaque participant, chaque tupic, un exemplaire. Donc, n'hésitez pas à en prendre à la sortie. On remercie le PSR pour le financement de la publication. Et on y revient cet après-midi.
Un passo.
De la, enfin, voilà, de la journée.
Je suis en train d'en chauffer.
Voilà. Non, mais si tu veux, du coup, on va, avant d'attaquer les ateliers, en fait, de l'après-midi, où l'idée, c'est vraiment de réfléchir ensemble à quel dispositif serait le plus adapté, en fait, pour, entre guillemets, capitaliser, en fait, sur les projets numériques patrimoniaux qui ont déjà été réalisés. Vous présentez, en fait, la démarche qui a été adoptée pour la réalisation, donc, de l'ouvrage Des branches, que nous sommes très heureux, tous les cinq. La graphiste, la relectrice, enfin, voilà, ils vont travailler sur l'ouvrage, de vous présenter aujourd'hui. Et donc, on va un peu expliquer comment on a fonctionné, comment en fait on en est venu à faire quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce qui était prévu à l'origine.
C'est... transition. En fait, très raqué, donc on va essayer de d'étaler un petit bout des temps. Et donc, ce petit ouvrage que vous avez dit à ce moment, le QD, c'est suite à un projet de recherche aussi, Sylvie et Nicolas, qui m'ont porté, mais ils sont en tout cas à participer. CONUM, réflexion partagée sur la conception numérique, qui avait pour objectif de réunir des professionnels, des usagers du secteur muséal et patrimonial, pour discuter un peu des grands blocages, de vagues pensées liées à la conception de signes numériques de musée, et notamment dans des petites structures. Alors, je dis ça aussi par rapport à ta présentation précédente qui était passionnante et qui était énormément en course à cette petite livre, mais on n'avait pas de si grandes structures pour le peu dans les participants. Donc, on nous a mis la liste des signes, le Fort Saint-André, un musée d'archéologie à Latte, je les ai pas tous les cités, moi. Le musée d'archéologie, c'est signé, c'est un saut de quelque chose, c'est un virgure. Et donc, ils avaient tous une expérience en termes de conception de signes numériques. Et l'idée, c'est de remettre sur le processus ensemble, qu'on puisse avoir des connaissances du terrain qu'on n'avait pas, en fait, qu'on ne suivait pas cette astuce-là. Ça, on revenait sur les objectifs du projet en soi. Il y avait quelques exemples là, de questions qui étaient centrées sur en amont de la conception du dispositif pendant sa réalisation, puis après, que ces dispositifs soient libérés en demandant priser. Qui est à l'origine du projet, dans quel objectif, comment s'est organisé le travail avec une constataire, des données d'optimisation sont-elles disponibles, ce genre de questions. Et donc, c'était très libre. Et bien sûr, à un moment, il y avait un stage du tarot qui sidérait sur les problèmes rencontrés, ce qui n'est pas toujours livré au grand public, soit des problèmes, soit des échecs. Donc, on a fait ça et qu'on a abouti à un certain nombre de points qu'on relevait, de points qui pouvaient poser problème donc à certaines étapes pour ce processus de conception pendant après et on a fait ce travail juste de synthèse au début de repérer en fait les petits problèmes qui posaient les petits points qui posaient problème des exemples de points on relevait le projet nécessite de ce type dématériellement ou pas, c'est des questions qui étaient justement récurrentes pas en investissement ou en fonctionnement, on lit les notes, c'est vraiment des traits de notes, mais c'est genre de problèmes très très concrets. Et donc, on a abouti à, à une liste de 20 items, qui semblaient transversales à toutes les discussions. Et je vous en donne un exemple, réfléchir l'adéquation de l'outil et d'expérience, trouver le juste équilibre, interroger la transposition. Et donc, pour chaque terme, il y a un petit descriptif qui permettait de comprendre le point de blocage. Et on avait l'intention, en matière de valorisation de ce projet-là, de faire ce que devait s'apparenter à priori d'un guide. Alors, on ne savait pas quelle forme ça allait prendre ce guide, numérique, bonne numérique, papier, des entrées. Enfin, on ne savait pas trop quelle forme ça pouvait prendre. Mais on était plutôt inspirés. On s'est dit, on va aller peut-être s'inscrire dans une forme de guide classique. Mais en même temps, on voyait bien qu'il en existait déjà pas mal sur le sujet. De guide, alors soit spécifique à un outil de validation numérique précis, soit transversal à des projets numériques dans l'ensemble. Le meilleur exemple sur les visites en ligne, qui est un des guides d'appui à la mise en œuvre et validation des impacts.
Ça t'a trop donné aussi le contexte. En fait, c'est la plus financement, c'est d'un financement au départ ministère de la Culture au CNRS, en tête de l'accord cadre. Et donc, du coup, il y avait quand même de la part du ministère aussi l'enjeu de proposer quelque chose pour les professionnels à l'issue. Et le cadre de la commande, c'était aussi qu'il y ait une circulation un peu comme dans le cas du PEPR entre professionnels, les musées, les chercheurs. Enfin, alors, on était dans ce contexte-là. Et c'est vrai que, dans un premier temps, la promesse était vraiment sur la réalisation d'un guide.
Mais on trouvait ça plutôt marrant de croire autre chose. Non, on voyait bien que ça collait pas trop à ce qu'on relevait nous dans le cadre de ce projet-là. Et on est là-bas à des prescripteurs parce qu'on a beau faire un guide sans vouloir prescrire quoi que ce soit, le fait même qu'il s'appelle guide de conception numérique, ça prescrit aussi des usages du numérique. Donc on est un peu arrêté sur ce point. Et puis il y avait quand même dans les discussions entre nous, une volonté. Alors, c'est pas de dénoncer certaines nouvelles pratiques, mais en tout cas de pouvoir ironiser dessus. Et d'où le format un peu plus décalé. Alors, le premier truc qu'on a fait, nous, en interne, vous allez voir, c'est le plus beau sommet après. Non, mais nous, en interne, ça a donné ce genre de petites planches de bande dessinée où là, c'est sur l'interprétation des données collectées par les tables de billetterie, par exemple, ce genre de choses. Et c'est là que la rencontre a opéré avec, avec le Renault, dont j'ai mis directement la version finale. Après, on passera, on va revenir dessus. Mais de cette BD, on a pu collaborer avec Renault Perrin et le résultat final m'a demandé pour voir la différence qu'il y a entre le potentiel guide et le lit qui a été finalement produit et qui d'ailleurs ne porte pas les noms de guide ou de débranche de nouvelles pour les oscilles reconnectées et qui se présente en introduction dans un anti-guide du numérique au musée et donc pas un guide anti-numérique au musée. Petite nuance là-dessus tout de même. Mais qui, voilà, qui au final me rouvre un peu avec les items principaux. On va le revenir. Et donc, pour être sûr de... Pardon, voilà. Ça, c'est la page d'introduction de l'ouvrage qui explique la démarche. Et donc, on a fait une dernière journée de, à partir des petits post-it que vous voyez, des items qu'on avait repérés, on a fait une dernière journée de travail collectif avec, avant que l'ouvrage sorte. Avec, oui, je vous cite à combien? Vous avez raison. Et donc, avec les participants des autres ateliers, pour mettre à l'épreuve, nous, ce qu'on proposait, et on leur a imprimé, on le voit légèrement sur ce, est-ce que je vais pas? C'est les cartes avec les itères et derrière l'explication qu'on y mettait, nous. Et eux avaient le loisir de les réorienter, en rajouter d'autres, de les hiérarchiser. Donc, collectivement, aussi, il y a un exemple avec celui d'Ala.
Et partie institutionnelle, ça s'est passé au Fort Saint-André, pas un mot Fort Saint-André, mais c'est marre. C'était à la Chartreuse de Vignoles des Avignons. Il y avait le Fort Saint-André par tous les membres des ateliers précédents qui avaient été sollicités.
C'est un état très honnière. Il couvre, là, il y avait trois groupes et travaillé à partir de ces tortues-là.
Et donc, à ce moment-là, Renaud, toi, tu disais que tu croquais les échanges. Était avec nous, avec les échanges, c'était avant même Vieux Point qu'on disait. C'est, en fait, c'était avant qu'on ça existe. Et donc on est arrivé donc à une liste de 10 chapitres hein, qui est venu de chaque route, mais de 10 grands points liés à la conception de Team Lake de médiation. Donc ces 10 cela sont les suivants, des titres qui ne sont pas très parlants forcément. Du split monnaie, qui a toute petite lettrine pour le meilleur ou pour le pire, etc. Mais bien sûr, chaque chapitre se compose d'une manière répétitive d'un texte explicatif qui reprend, enfin qui explicite le sous-titre. Là, en l'occurrence, du split monnaie, c'est s'assurer de parler le même langage. On en a un peu parlé aussi au début, qui était peut-être le point qu'on a mis en chapitre 1 qui était le plus important, de s'assurer de partager le même langage entre tous les acteurs lié à la conception de numérique de médiation pour dépasser les effets d'annonce, les effets waouh, il y a bien certains vocabulaire utilisé, qu'on se comprenne aussi sur certaines émotions qui nous paraissaient importantes comme des publics. Et donc chaque chapitre est divisé en un texte explicatif, une scénette de théâtre c'est sans signe d'autre à rire, donc j'espère que ça marche pas, et des rubriques inspirées des cahiers de vacances, des magazines, par d'occurrence les mots démêlés ou le bingo, martelé dans le crédit avec les étudiants en somme. Et voilà. Et en fait, je traçais parce que j'étais revue quand, mais je mets ça à 20 mon.
Peut-être, bon, ça. Je le sais à pas quoi d'ailleurs. Bon. Et en effet, pendant la télé, on était dans la structuration de l'ouvrage. Il y a vraiment l'idée, donc on a repris les. Fin, il y a les 9 points thématiques et quand même, enfin, il y a un chapitre fois 10 qui est aussi sur nous en tant que chercheurs dans ce fonctionnement-là aussi, comment on contribue à valider certains types de pratiques, en fait. Donc, on ne sait pas, on n'est pas resté en mode on observe et qui m'en va. Attends, ouais, bon, c'est aussi un peu dans le post-chute.
Oui, moi je peux parler de la démarche par rapport aux illustrations. Donc, donc je suis venu effectivement une journée à Avignon pour dessiner la journée de l'échange et de restitution, un peu comme celle-ci. Donc, j'ai mis une photo. Donc, j'ai travaillé dans des carnets pour me constituer une banque un petit peu de référence, soit d'objets liés à la validation numérique ou de lieux de patrimoine pour avoir un peu de la matière déjà. Et tous les premiers dessins que j'ai faits pendant cette journée, c'était comme aujourd'hui, plutôt des collages qui ont une couleur. Et en fait, pour le guide, j'ai opté pour une autre technique, un travail au feutre pinceau, avec des aplats de fleurs, donc qui sont un petit peu mixtes, le côté aplat pour aller un peu vers la dimension numérique, et le travail pinceau pour que ça reste vivant et que ça réponde un peu à la demande des auteurs et autrices d'avoir quelque chose qui se rapproche du roman graphique et puis le côté cahier de vacances un petit peu ludique, mais pour autant avec un objet qui est quand même qui a un contenu entre les quand même, ce qui reste sérieux et utile. Voilà, donc il fallait trouver un petit peu un compromis entre tout ça. Et après, donc suite à ça, il y a eu aussi un échange avec Géraldine Faure, la graphiste, pour donner la forme juste dans le choix des typographies, où il y a des typographies qui se rapprochent d'une écriture script, pour, en tout cas pour les titres, des fonds de couleur, mais qui sont pas trop présents, donc dans lesquels on remet du blanc, que ça reste aéré. Chaque chapitre, en fait, a un fond de couleur différent, ça permet de distinguer donc des quatre pages. Je peux rajouter. Ce qui était intéressant aussi dans la démarche, c'était de penser l'objet dans son ensemble, donc à la fois le livre imprimé, mais il sera aussi disponible, je crois, sur le numérique. Et donc de penser un objet qui soit fabricable à un coût raisonnable par rapport au nombre d'exemplaires. Donc, je crois que c'est 200 exemplaires. Et donc, il y a un imprimeur qui a été retenu, qui travaille en fait en HP Indigo. Bon, c'est assez technique, mais ça peut être intéressant. C'est que c'est une technique qui se rapproche de l'offset, mais qui est beaucoup moins coûteuse pour les petites séries. C'est un bot entre l'offset et le numérique. Donc, et qui est plutôt écologique, parce qu'il n'y a pas de, contrairement à l'offset où les premiers tirages, on a de la perte de papier. Là, ce n'est pas le cas.
C'est vrai, c'est qu'on nous a ce que je pense qu'on va s'assurer.
Encore une fois, institutionnel, et dire en fait que c'est quand même grâce au pied de l'ICAR, on a réussi à imprimer ces 200 énoms.
Est-ce que vous avez des questions?
Non, je n'ai ajouté, peut-être pour finir, que nous, quand même, aussi en tant que chercheurs, lui, chercheuses, c'était intéressant de travailler sur autrement qu'à l'écriture d'articles scientifiques, de thèses et de communication, des formats classiques, en fait, de la recherche dans une maladie, pour se décentrer, écrire, se donner la liberté de travailler déjà d'une part ensemble dans une démarche collaborative entre nous, et avec Renaud et Géraldine, et avec toutes les personnes qui ont participé au focus group, aux ateliers, etc. Donc, c'était très riche et nourrissant ce travail. Et puis ensuite, la renderisation au niveau d'écriture qui était complètement différente de ce qu'on a l'habitude de faire et qui a été un grand moment quand même de plaisir, ouais. Enfin, de saisir, ouais. C'était chouette à faire, dans l'espace de liberté des futurs qui reste appuyé à que c'est à nos recherches scientifiques, mais qui sont un peu plus supplicables. Si vous avez besoin d'intuiter, pas ces questions. Si vous avez des questions. Tout le monde a très peur de devoir faire ça après les ateliers. Ma tête, c'est pas du tout là. C'était là en plus pour nous expliquer la démarche, la longue principe. Avec FISPA, avec tes structures, dans la façon dont on a pu travailler ensemble.
Est-ce qu'il y avait quand même, avant, on espère qu'elle sera utile, ou peut-être,
peut-être plus accessible que d'autres types de publications de diffusion, mais que dans les ateliers, il y avait une demande en boîte à outils, de boîte à outils
sur les expériences déposées, ou comment on fait dans les cahiers des charges, parce que ça dépend vraiment des structures et de gens. C'était des fois, là, ça paraît être très organisé, ce qu'on a vu préalablement, mais ça va être une personne qui doit être plus en charge à temps plein du service médiation, qui doit concevoir peut-être site internet, qui va s'intéresser de son actualisation, voir les choses au trac, peut-être au quotidien, donc on espérait que ça pouvait aussi aider et avoir peut-être un
maturité. Non, mais en fait, si on veut le pour diffuser un peu comment, il m'en va le faire.
Yes. Et les garçons en ligne, alors c'était le, enfin, comment on n'est pas déjà bien le PUBA, enfin, l'idée, c'est aussi qu'il y ait l'accès. En fait, on s'était juste dit que ça pouvait être bien que la version en ligne soit accessible avant les vacances. Donc, qu'on avait pensé qu'on la mettrait en ligne, va en juin, ou, enfin, juste avant les vacances d'été. Mais dans tous les cas, l'exemplaire en vue tard, les envoyer la demande, quoi. Des envoyer, enfin, après, voilà, l'idée, soit sur,
c'est ce que je fais le signe. Vous avez entendu parler des augures là de Mid?
Non, j'ai pas. Désolé, toi.
De l'association, oui, t'as les deux, ils travaillent. Oui, avec vos collas, c'est une qui font qu'il y a maintenant 3 ans avec les établissements sur le transens.
La région diffusion, la première station en papier, ouais, on a 200 ouvrages qu'on a donnés, enfin, qu'on a envoyés à tous les participants des ateliers, etc. À nos collègues avec qui on a travaillé aussi sur ce sujet depuis longtemps, et puis ensuite, là, aujourd'hui, vous, et je sais pas si vous voulez mettre en bibliothèque, enfin, les bibliothèques de nos petits régions, c'est accessible, et puis après, diffusion numérique, la petite nous conseille d'être parce de ce William.
Merci.